l'équipe d'Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko, Anissa Haddadi, Olivier de Lagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Hervouette, toutes les signatures d'Europe 1, Agnès Verdier-Molinier, Eugénie Bastier, Alexis Brézet et l'ensemble de la rédaction Europe 1 Matin de 7h à 9h tous les jours sur Europe 1, la radio libre. Du jingle, mais c'est pas grave, on va faire 100 et on retrouve évidemment Maëlle Hassani pour le journal. Rebonsoir Maëlle.
Bonsoir Roland, bonsoir à tous. Les députés, les Républicains décideront demain en réunion de groupe de voter ou non les motions de censure déposées contre le gouvernement Le Cornu. Annonce du député LR Julien Dive, invité d'Europe 1 Nuit. Des motions portées par le RN et LFI en réponse à l'utilisation du 49.3 par le Premier ministre pour faire adopter le budget de l'État. Un passage en force acté tout à l'heure par Sébastien Le Cornu. Le gouvernement devrait de toute façon éviter la chute grâce à la bienveillance du Parti Socialiste. Le Maroc devient le premier pays à s'engager dans le nouveau Conseil de paix, une instance internationale pensée et dirigée par Donald Trump pour faire concurrence à l'ONU. Chaque siège de membre permanent est facturé 1 milliard de dollars. La France ne peut donner suite à l'invitation envoyée par les États-Unis, fait savoir ce soir le ministre des Affaires étrangères. La charte de ce Conseil est incompatible avec l'adhésion aux Nations Unies, estime Jean-Noël Barrot. Les États-Unis, toujours plus menaçant avec les Européens, il serait très mal avisé de répondre aux surtaxes douanières annoncées par Donald Trump sur les produits en provenance de 8 pays, dont la France. C'est ce qu'affirme ce soir le secrétaire au Trésor américain. Des surtaxes destinées à faire plier l'Europe sur le dossier du Groenland. Ces pressions seront au cœur d'un sommet européen extraordinaire jeudi soir. Dans ce contexte explosif, des avions d'un commandement militaire américano-canadien sont en route pour le Groenland. Ces appareils vont participer à des manœuvres prévues de longue date avec l'accord des autorités danoise et celle du territoire arctique. Le Premier ministre espagnol promet une transparence absolue sur les causes de la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Andalousie. Au moins 40 morts et une centaine de blessés, bilan toujours provisoire après cette collision entre deux trains des compagnies Irio et Renfe. Les premières investigations permettent d'écarter pratiquement la piste de l'erreur humaine, selon le ministre des Transports qui évoque, je cite, un accident extrêmement étrange. 3 jours de deuil national sont décrétés. Un accord complémentaire signé à l'Élysée sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, annonce d'Emmanuel Macron ce soir. Après 3 jours de réunion avec les différents élus de l'archipel, à l'exception des indépendantistes du FLNKS qui boycottent ces discussions, ce nouveau compromis est présenté comme un complément à l'accord de Bougival signé l'été dernier. 300 foyers privés d'électricité ce soir dans l'Aude, une cinquantaine de routes toujours fermées à la circulation, 2 personnes hospitalisées en urgence absolue après des accidents liés aux intempéries. Mais la situation s'améliore dans le département où la vigilance orange au cru est désormais levée. Les Pyrénées-Orientales, la Corse du Sud et la Haute-Corse restent en alerte. L'Italie perd aujourd'hui une légende, l'hommage de la première ministre transalpine Giorgia Meloni après l'annonce du décès du styliste Valentino à l'âge de 93 ans. Cette icône de la haute couture s'est faite connaître en habillant de nombreuses stars d'Hollywood. Et puis une belle victoire pour clôturer le premier tour de l'Euro. L'équipe de France masculine de handball s'impose ce soir face à la Norvège 38 à 34 et termine en tête du groupe C. Les hommes de Guillaume Gilles sont attendus au Danemark dès jeudi pour le tour principal de la compétition. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03 et on retrouve Roland Pérez pour la libre antenne jusqu'à 1h.
Je vous autorise à aller manger une petite part de...
Ah, ça c'est gentil.
Galette des Rois, parce que vous n'allez pas avoir le temps après minuit. Moi, je vais continuer à faire l'émission. Donc, voilà.
Bah, je vais déguster ça alors avec grand plaisir. Merci Roland pour cette générosité.
Mais non, cette générosité, c'est rien du tout. Je vous l'avais promis depuis très longtemps.
C'est vrai.
Et puis, si seulement ça pouvait vous faire parler un petit peu plus, mais je suis pas sûr de cela.
Bah, c'est pas impossible. Attendez, je mange la part et à minuit, vous aurez peut-être des informations.
Non, mais je vous prends au mot. Vous ne me connaissez pas. Vous ne vous rappelez pas qui je suis. Vous m'avez oublié depuis 5 jours.
Je vous ai pas oublié.
Vous ne connaissez pas ma quête d'intimité vous concernant.
Ah, je vous ai pas oublié.
Bon, allez. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h.
La libre antenne.
Roland Pérez.
Il y a des soirs où la solitude pète. pèse plus que d'autres. Des soirs où la maison est trop silencieuse, où le téléphone ne sonne pas, où l'on se demande si quelqu'un pense encore à nous. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Cette libre antenne existe pour ça, pour relier les solitudes, pour transformer un silence en voix, une inquiétude en partage. On va parler des ruptures, oui, mais aussi des retrouvailles, d'espoir, de projets qu'on croyait enterrés et qui refont surface. On va parler de famille, celle qu'on a, celle qu'on choisit, celle qu'on rêve de réparer. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Ce sont des appels non surtaxés. Et puis Florian et Julia, vous le savez, vous répondent, vous écoutent, prennent le temps. Et à la réalisation, toujours notre Laurent Pellet, fidèle au poste. Si vous préférez écrire, il y a le 7 39 21. Précédé du mot nuit, 0,75 centimes plus prix du SMS. Merci pour tous, pour votre fidélité, pour cette audience en hausse qui nous touche profondément. Merci d'être là chaque soir jusqu'à 1h du matin. Juste avant le flash de 23h, nous étions et nous sommes toujours avec Joran. Joran a été placé à l'ASE dès l'âge de 6 ans, car ses parents ont été incarcérés pour des actes de torture et de barbarie, non seulement à leur égard, mais également à l'égard d'autres personnes. Et puis, Joran va se retrouver chez ses grands-parents. Mais chez ses grands-parents, même si c'est un petit peu mieux, si les coups ne vont pas forcément pleuvoir tous les jours, elle va découvrir ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, dont étaient victimes ses grands-parents, et plus exactement sa grand-mère. Elle vit au milieu de détritus, des monceaux de vêtements plus ou moins propres, d'objets divers. Elle est sous-alimentée, et puis évidemment avec ses frères et sœurs, elle va être un petit peu elle va être moquée évidemment à l'école. Elle va avoir des dents cariées. Elle va vraiment vivre dans ce qu'on peut être, ce qu'on peut appeler la misérabilité la plus totale. Et puis les services sociaux, même si ces dysfonctionnements sont légion parfois, ils vont noter que cette famille, ses frères et sœurs sont dans une situation contre toute attente extrêmement précaire, extrêmement délicate, mais ils ne vont pas décider de les placer. Alors vont s'en suivre des fugues et puis un beau jour, sa maman va revenir, la maman de Joran va revenir de prison et c'est une autre violence à laquelle Joran va être confronté. C'est une violence sexuelle car sa maman va lui imposer des relations sexuelles avec un jeune homme dont elle tombera enceinte. Et elle demandera à ce moment-là d'entrer dans un foyer pour jeune mère. Et avec son enfant, elle va décider cette fois de reprendre des études qu'elle ne va pas pouvoir évidemment terminer car elle va se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas se rendre seule à l'école, notamment pour passer son bac. Mais elle va faire une rencontre d'une personne qui est elle-même placée dans ce même foyer et qui va lui présenter celui qui va devenir son mentor, celui qui va lui montrer le chemin, un légionnaire camerounais avec sa femme, qui est un ancien sportif. Il va se prendre d'affection pour elle, il va la prendre sous sa coupe, Joran, et là, elle va pouvoir commencer véritablement à rêver, ce rêve qu'elle avait de normalité, et puis à rêver de faire quelque chose de sa vie. Nous en étions là au moment où Maëlle Hassani est entrée dans le studio pour les informations de 23h. Vous êtes toujours avec nous, Joran ?
Je suis toujours là et vous avez très bien résumé l'histoire et surtout le mot rêve, je l'aime beaucoup parce que c'est ça que m'a évoqué ce père adoptif. Il va me faire beaucoup rêver. Je vais le voir faire du sport, je vais le voir avoir ce petit cocon de famille, je vais le voir bien se comporter avec les gens, être toujours à l'écoute, toujours gentil, et je vais vouloir juste lui ressembler, être comme lui. Et c'est pour ça que je vais nourrir le rêve de rentrer à l'armée.
Il y avait l'armée, et puis il y a un rêve encore plus loin, plus profond, qui parle à votre histoire et qui donne du sens et écho à votre histoire. C'est que vous rêviez aussi, et vous allez y arriver, vous vouliez devenir éducatrice spécialisée. Vous voudriez justement réparer ces enfants, aider ces enfants. Vous n'aviez pas eu cette chance à l'époque d'être aidée dans votre enfance, et vous vous êtes dit que ça n'est plus possible. Les souffrances, vous êtes frottée à la souffrance infantile, et vous vous êtes dit là que c'était plus possible. Donc il y a ce grand rêve, et puis il y a ce premier rêve, effectivement. Vous avez consulté des fiches des métiers de l'armée, et vous avez découvert les pompiers de Paris.
C'est ça, je vais être pompier. C'est mon père qui va m'inspirer du coup à ce métier, en étant lui légionnaire. Je dois rentrer dans l'armée. C'est cette spécialité.
Comment il s'appelle ce père adoptif, enfin, vous l'appelez père adoptif. Il vous a adopté entre temps.
C'est ça, entre temps il m'a adopté. C'est oui. Pour ça que c'est tellement fort pour moi de pouvoir dire justement mon père, parce que c'est officiel, parce que voilà, je portais son nom, et que ce soit mon père administrativement, il n'y a rien de plus fort et rien de plus beau.
C'est une adoption simple alors à laquelle vous avez procédé, parce que vos parents sont... Et vos parents ont accepté cette adoption ?
Ils ne l'ont pas accepté, j'ai dû passer outre leur regard, mais étant donné que j'étais majeure, au moment de la demande, ça n'a pas posé...
De problème. Et donc, vous avez... Et comment il s'appelle ce papa miraculeux ?
Donc, il s'appelle Franck.
D'accord, Franck. Et donc, Franck va vous montrer le chemin, que c'est possible, que pourquoi pas devenir pompier, que votre rêve peut devenir réalité. Et donc, alors que vous n'aviez pas le profil, hein, je crois que vous n'êtes pas très grande, vous n'étiez pas forcément sportif, c'est ce que vous disiez. Mais évidemment, déjà, aider les autres, c'est ce qui vous séduit dans ce métier de pompier.
C'est ça, c'est vraiment accompagner les gens. D'ailleurs, c'est ce que je vais voir sur l'affiche des pompiers de Paris. Et dans un premier lieu, l'idée d'entrer dans l'armée, de servir mon pays comme mon père adoptif le faisait, comme Franck le faisait. Et puis, il y a cette affiche des pompiers où il y a écrit 80% d'intervention de secours à victimes. Et je me dis, mais enfin, je vais pouvoir aider les autres. Je vais pouvoir aider les autres comme j'aimerais qu'on m'aide. Je vais pouvoir leur tendre la main. C'est ça qui me plaît. Dans ce métier, et c'est le métier que je vais faire pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, je vais faire des interventions de secours à victimes. Je vais du coup être amenée à intervenir dans des foyers, être amenée à intervenir avec des personnes qui ont besoin d'aide, socialement parlant, pour plein de sujets. Et je vais me dire, mais en fait, éducatrice spécialisée, c'est ça le métier.
C'est
pour
ça
moi,
que vous
c'est
voulez
ma
faire.
Vocation. Ouais, ouais. Je veux accompagner les gens sur du long terme. Je veux les aider à régler toutes leurs problématiques pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Et mon père, tout au long de mon parcours, que ce soit professionnel, personnel, tout, il va m'aider à réaliser ces deux rêves. Il va me soutenir dans un métier comme dans l'autre. Il va être là à côté de moi.
Mais surtout que personne ne vous croyait capable au départ d'intégrer ce corps d'élite, mais vous avez travaillé d'arrache-pied, du lundi au mercredi vous vous entraîniez, du mercredi au dimanche vous gagnez votre vie au McDo, donc vous n'avez rien laissé au hasard, vous aviez votre enfant également qui vous motivait, avec lequel vous viviez enfin, vous étiez devenu un bloc de détermination.
Oui, je le suis encore, mais c'est vrai que la détermination, elle a grandi, elle est devenue mon quotidien à cette époque-là, parce que j'avais mon fils qui comptait sur moi, et j'avais un père qui croyait en moi. Donc j'avais tout pour me montrer déterminée et de ne pas lâcher mes objectifs. J'avais tout à apprendre. J'avais en effet pas du tout ni les codes, ni les bases, que ce soit même ma façon de parler n'était pas du tout adéquate. Hein. Je disais beaucoup de gros mots. Ma confiance en moi, c'était zéro. Je baissais la tête. J'osais peu parler. J'avais souvent ma main devant mon visage, devant ma bouche pour me cacher. Je faisais 1m53. J'avais jamais fait de sport. Voilà, j'osais peu m'exprimer. Quand je le faisais, c'était souvent avec vulgarité, même pas une vulgarité grossière, mais la vulgarité d'une personne qui n'a finalement eu peu d'interactions, qui a peu parlé et qui a aussi peu de base, je dirais, peu d'éducation. Et mon père va me reprendre sur tout ça. Surtout de A à Z, les pompiers vont aussi beaucoup me forger. Ils vont forger.
Vous allez d'ailleurs, on va le dire, c'est pas vous qui le direz parce que je sens votre humilité, mais vous avez reçu la médaille de la sécurité intérieure pour avoir participé notamment, à l'incendie, en tout cas, au secours de Notre-Dame de Paris.
C'est vrai, j'aime beaucoup rester humble à ce sujet, même si j'ai beaucoup de reconnaissance et beaucoup de fierté d'avoir pu participer à cet événement. C'est vrai que c'est très beau de participer à, enfin, tristement beau, je dirais, de pouvoir participer à ce type d'intervention. Je suis très fière en tout cas de ce parcours, même si je reste humble sur le sujet. J'en suis très fière de toutes ces années à être pompier, à exercer ce métier.
Et alors, donc c'est 6 ans, et puis 6 ans plus tard, votre contrat chez les pompiers, c'est ce que vous disiez, c'est terminé. Vous ne l'avez pas renouvelé parce que vous avez un autre rêve, vous l'avez dit, vous l'avez touché du doigt. Votre rêve, c'est de devenir au secours des enfants, et vous voulez donc devenir éducatrice spécialisée. Et cette fois-ci, vous avez enfin confiance en vous, vous êtes persuadée d'en avoir la capacité, vous en avez hélas tristement l'expérience, compte tenu de l'enfance malmenée, brisée que vous aviez eue. Mais vous saviez très bien que vous n'alliez pas réparer le passé, mais vous pouviez peut-être reconstruire l'avenir.
Oui, j'ai décidé de prendre le pari d'essayer de faire les choses autrement, de faire ce métier comme il devrait être fait, et de faire du mieux que je puisse, en tout cas avec les moyens qui me sont donnés. Et c'est vrai que je dirais que c'est un pari réussi, parce que j'exerce maintenant ce métier depuis 3 ans, et c'est un métier formidable. C'est un métier formidable, parfois chargé de frustration, et je peux pas dire que c'est simple tous les jours d'être éducatrice spécialisée, alors que nous-mêmes on a été une enfant placée, une enfant qui a pas su être protégée et qui a vécu beaucoup de violence. Parfois je rentre chez moi assez triste de voir toute la violence que certains enfants peuvent vivre encore, mais plus déterminée le lendemain, une fois que je me suis bien reposée avec mon fils et que je vois à quel point il grandit, que je peux passer ces moments avec Franck durant mes temps de repos. Et après, je reviens au travail plein d'énergie et déterminée à faire bien les choses, à accompagner les enfants avec amour, avec soin, avec attention.
Vous travaillez pour l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui ?
C'est ça. Aujourd'hui, je travaille en protection d'enfants. Je travaille dans un foyer où sont confiés des jeunes de 3 à 17 ans parce qu'ils ont vécu des violences. Donc, c'est des jeunes qui ont eu des places.
Ils sont là pour ça. Mais vous repérez des enfants plus atteints que d'autres très vite. Vous savez les reconnaître?
Alors, plus intense. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un enfant qui est plus intense ou non, s'il y a une violence qui est plus minime que l'autre, mais en tout cas, oui, j'observe des violences. J'observe des violences de différents types. Il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques. Il y a tout type de violences que les enfants peuvent subir, et l'idée, c'est de les accompagner, d'observer justement ces violences, de créer du lien avec ces enfants, parce que c'est des enfants qui sont mis ici, mais qui ne l'ont pas forcément choisi. Parfois, ils l'ont demandé, mais parfois, ils ne l'ont pas demandé. Et l'idée, c'est d'apprendre à connaître ses enfants, de créer du lien, de faire en sorte qu'ils nous fassent confiance. Donc, de pouvoir toujours être droit, toujours être... et de les accompagner aussi au quotidien.
Vous vous retrouvez dans ces enfants, vous vous dites, si j'étais cet enfant-là, et si je m'étais rencontré, voilà ce que j'aurais voulu faire ou entendre, ou le soin que j'aurais voulu que cet enfant a. Il y a comme une projection dans ces enfants?
Alors, j'essaye au maximum qu'il n'y ait pas de projection, parce que s'il y en avait, je pourrais plus voir vraiment la souffrance de l'enfant, ma souffrance, vous voyez. Ma souffrance n'est pas celle de l'enfant que j'accompagne. Il y a des enfants qui vivent les choses différemment, qui vivent aussi différents types de violences, et si je me représenter trop dans ces enfants, et du coup je pourrais pas accompagner. Mais par contre, vous avez quand même soulevé un point, mon histoire elle reste toujours là, l'enfant que j'étais reste toujours là, et ce que je me dis surtout, c'est que tout ce qui s'est passé dans mon histoire ne doit pas se reproduire. C'est ma ligne rouge, Et pour ça, et ben justement, je dois penser à ces enfants. Je dois suffisamment observer, suffisamment apprendre à les connaître et faire et toujours voilà leur permettre un maximum, que ce soit voilà dans leur vie quotidienne, dans leur insertion professionnelle, dans tout, ben, mettre tout en place pour leur que leur accompagnement au sein de la protection se passe bien et se passe en sécurité.
Vous leur parlez de vous, vous leur parlez de ce que vous avez vous-même vécu, de ce que vous avez vous-même traversé, peut-être ce qu'ils ont traversé, pour les mettre un peu en confiance ou pas du tout.
Alors je le fais dans d'autres cadres, je fais parfois des interventions où je vais raconter mon histoire, mais quand je travaille quotidiennement, je le fais pas parce que c'est parfois des enfants qui portent beaucoup de charges, c'est des fois des enfants qui ont justement été trop considérés comme des adultes, et l'idée c'est pas de leur raconter, ça pourrait, voilà, ils pourraient avoir envie plus de me sauver, de m'aider, et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'ils sentent que je suis un pilier solide et que c'est moi qui est là pour les accompagner.
C'était parfois pour les mettre un peu plus en confiance, parfois on peut raconter son parcours pour les mettre en confiance, mais je comprends.
Mon parcours étant public aujourd'hui, ils y ont accès et l'idée c'est d'être transparente aussi avec eux quand ils ont des questions sur ce parcours et ça se passe assez bien et je pense qu'aussi ça crée, c'est vrai, un lien de confiance.
Alors on va venir justement à ce que vous disiez, mon parcours est public, on va y venir quelques minutes. Juste, je rappelle ce que vous avez dit, Franck, on a commencé par cette interview avec cet échange avec ce que vous a dit votre père adoptif. Tu ne me dois rien, tu te dois tout, je n'ai rien fait.
C'est ça, c'est ses propos.
Et vous êtes d'accord, aujourd'hui avec ses propos ?
Alors, c'est vrai que je suis d'accord, je suis très fière de mon parcours, mais je ne cesse de me répéter que je lui dois beaucoup. Et je me demande quelle aurait été ma vie si j'aurais eu cette force et cette détermination, si je n'avais pas croisé sa route,
si
je n'avais pas tendu la main.
Oui, si ce n'est que vous devez aussi au destin de l'avoir rencontré, oui. Il y a la belle personne qu'il est et qui serait restée et qu'il est toujours et qu'il peut-être l'aurait été avec d'autres. Ce qui est magnifique, c'est le fait que vous soyez rencontrés tous les deux.
C'est ça, c'est une très belle rencontre et qui n'a que renforcé ma détermination.
Et alors, vous avez livré ce témoignage dans un livre qu'on peut tous se procurer, qui a pour titre « Quand je serai grande ». C'est chez Fayard, donc c'est un très beau témoignage. Et la quatrième de couverture dit « C'est vrai, on ne peut pas toujours réparer son enfance, on ne guérit pas toujours de ses blessures, mais l'horizon reste possible ». J'ai parcouru un joli chemin depuis que maman m'arrachait les cheveux.
C'est cela, mais ça résume bien mon histoire. Et le message surtout que je veux partager, que ce soit ce soir avec vous, que ce soit à travers ce livre, et ben c'est ce message qu'il faut garder en tête. L'horizon, il est là, il est possible. Peu importe ce qu'on vit, des violences, et ben malheureusement, il y a des enfants qui en subissent aujourd'hui, j'en ai subi. Et avec détermination, avec beaucoup aussi... de recul et d'amour, ben on peut... Demain est possible et tout. Hein. J'ai pu être éducatrice spécialisée.
Vous avez fait quelque chose de vos souffrances, de l'enfant un peu martyrisé que vous aviez été. Deux questions. Comment va votre frère et votre sœur ? Comment vont votre frère et votre sœur ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas parce que j'ai coupé les contacts avec ma famille. Pour pouvoir me protéger, protéger aussi mon fils.
Et donc ils sont censés être avec vos parents aujourd'hui ou ils sont majeurs, ils sont.
Alors ils sont majeurs parce qu'ils sont voilà ils sont majeurs. Je ne sais pas où ils sont. Je sais s'ils sont avec ma mère, mon père, ma grand-mère. Mais ils sont loin de moi et à vrai dire, on a grandi différemment.
Oui, vous pouviez pas sauver tout le monde de toute façon.
Et je pouvais pas malheureusement sauver tout le monde. J'ai essayé à certaines périodes de ma vie d'être en contact avec eux, mais ça s'est pas forcément bien fini et j'ai vite réalisé qu'on n'avait pas la même réalité, pas non plus la même volonté ou la même vision de ce qu'on pouvait faire.
Vous aviez une volonté de non-reproduction et de résilience, et peut-être qu'il ne l'avait pas. Et votre fils, il a quel âge aujourd'hui ? Comment s'appelle-t-il ?
Mon fils, il a 12 ans, il s'appelle Swan. C'est un garçon intelligent.
Donc il connaît aujourd'hui votre histoire ? Il connaît votre histoire ?
Il connaît mon histoire, il en est fier, il emporte mon livre à l'école et il demande à tous ses professeurs de le lire. mais il connaît mon histoire parce que mon histoire est aussi la sienne. Et qu'on a grandi, hein. J'ai eu cet enfant quand même à 16 ans. Et donc, il a été aussi témoin de beaucoup de choses. Et il a eu très jeune beaucoup de questions et j'ai toujours eu à cœur de lui répondre en toute transparence. Et donc, aujourd'hui, à 12 ans, il a pu lire ce livre. Et il me dit toujours qu'il est fier de moi et ça m'émeut, je crois.
Je crois qu'il a raison de vous le dire. Vous avez 28 ans aujourd'hui, Johanne ?
C'est ça.
28 ans, donc vous êtes extrêmement jeune, vous êtes donc assistante maternelle aujourd'hui, assistante spécialisée, pardon, on ne dit pas maternelle, on dit assistante de l'enfance.
Oui. Ouais.
Le petit a des nouvelles de son papa ou pas du tout? Il n'est pas du tout en contact? Il a été reconnu par son papa ou pas du tout?
Il y a eu aucun contact. Alors c'est un homme qui a souhaité prendre contact avec lui. Voilà, quand il était petit, très rapidement, il est parti en prison. Et moi, je souhaitais pas que mon fils grandisse. Voilà, avec un homme.
Donc aujourd'hui, il n'est pas reconnu par son papa et. Il a quand même été reconnu par
son papa.
Mais celui-ci n'a pas demandé de droit de visite, de droit de garde ou de choses comme ça.
Non, pas à ma connaissance, et je pense que c'est mieux pour préserver cet enfant dans ces circonstances.
D'accord. Écoutez, merci infiniment, Johanne, de ce témoignage, de la force de la vie, de cette résilience, de vos rêves qui sont devenus réalité, de cette plus que normalité que vous avez enfin gagnée. Vous avez le droit d'être heureuse aujourd'hui et heureuse à la fois en famille. Vous avez rencontré quelqu'un aujourd'hui? Vous avez un amoureux, comme on dit, Johanne, ou pas du tout?
Non, je me suis consacrée
à votre fils et à votre travail. D'accord.
À ma carrière, aux enfants, à l'écriture de ce livre, à beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'amour...
Vous n'excluez pas une rencontre?
Je l'exclus pas, je l'espère. J'espère une fin heureuse comme dans les contes de fées, mais voilà, je souhaite rencontrer le bon prince charmant, celui qui nous donnera beaucoup d'amour à moi et à mon fils, et qui saura être une bonne personne. Et pour ça, je me dis que j'attendrai le temps qu'il faudra.
Bah écoutez, il doit attendre lui aussi pour trouver la belle personne que vous êtes. On a Bernadette au 739-21 sur Europe 1 qui écrit un message pour Johanne, un parcours monstrueux, puis le foyer maternel, puis enfin une famille qui l'accueille, qui va lui apprendre tout. Ce monsieur a été un miracle en parlant de Franck. Et puis on a Cynthia qui dit: je trouve cette personne très courageuse malgré un passé catholique. Chaotique, pardon, elle est devenue une femme qui mérite un très grand respect.
Eh bien, tout ça m'émeut beaucoup. Ouais. Que ce soit Cynthia ou Bernadette, beaucoup d'émotions.
Bah oui, mais voilà, vous méritez toutes ces louanges. Et puis, comme vous l'a dit Franck, vous devez aussi beaucoup à ce que vous êtes. Et vous ne devez rien. Alors, vous devez beaucoup à Franck, c'est vrai. Vous devez beaucoup à la vie. Mais vous devez beaucoup également à cette belle personne que vous êtes et à ce que vous avez fait de cette enfance aujourd'hui et de l'aide que vous apportez, de l'amour que vous apportez à ces enfants.
Merci beaucoup.
Je rappelle votre livre « Quand je serai grande », sorti aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Johanne.
Merci beaucoup, Roland.
Et puis, continuez ce magnifique métier d'éducatrice spécialisée.
J'y compte bien.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
J'ai su les ennuis qui m'attendaient. Elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie. Même si pour ça le ciel ou l'enfer m'avalait. Elle est belle comme princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. J'ai la fièvre dans le sang. Cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être et encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle entre nous. Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme plus qu'obéissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Affaiblissant ne devient pas un jour un poison puissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'ai la fièvre dans le sang, le désir agissant comme un alcool puissant. Je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'ai la fièvre dans le sang. Cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, ma fièvre dans le sang. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'ai la fièvre dans le sang. Cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent.
Eh bien, vous avez évidemment retenu Alain Chamfort sur Europe 1, la fièvre dans le sang. Il n'y a pas d'âge pour recommencer, il n'y a pas de calendrier pour aimer à nouveau, il n'y a pas de règles pour reconstruire une famille, un couple, une confiance. Ce soir, si vous avez envie de parler d'un nouveau départ, d'un projet, d'une rencontre inattendue ou même d'une peur qui vous freine, appelez-nous, votre histoire peut éclairer celle d'un autre, sans que vous le sachiez. 01 80 20 39 21. La ligne d'Europe 1, la ligne de la libre antenne est ouverte. Le téléphone, ce numéro est non surtaxé. Florian et Julia sont là pour vous accueillir avec douceur. Et à la réalisation, toujours Laurent, avec nous, Laurent Pellet. Vous pouvez également nous laisser un message au 7 39 21. Vos SMS vont venir fleurir notre studio et ils vont accompagner nos auditeurs, comme vient de le faire encore Cynthia, qui trouvait la personne que nous avons eue très courageuse, Joran, malgré un passé chaotique. Voilà, donc ces messages font du bien, ces messages accompagnent nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous laisser ces messages, à nous écrire au 7 39 21. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.
Vous avez envie de nous parler, vous avez envie de réagir un témoignage qui est passé la semaine dernière, et c'était l'histoire d'une grand-mère qui, ou plutôt d'une emprise. Alors, je ne sais pas si c'était, puisque ce n'est pas moi qui animais cette émission, mais je ne sais pas
quel
type d'emprise.
Oui, c'est une personne qui pouvait pas partir de chez son homme, parce que je pense qu'elle était atteinte du syndrome de Stockholm.
D'accord.
C'est quand c'est qu'on devient amoureux de son bourreau.
Bon, son bourreau, absolument. Voilà. Et alors, vous, ça vous est arrivé, Jean-Philippe, c'est votre histoire qui va nous intéresser ce soir. Ça vous est arrivé, vous étiez garçon de café, et ça s'est passé dans un restaurant. Racontez-nous.
Ben ça, je vais commencer depuis le début. Mmh. Dans les années 83, j'ai eu un grave accident de la route où je suis resté un mois dans le coma et je me suis retrouvé un peu handicapé. Mmh. Et, mais par contre, mes parents, eux, ne le voyaient pas comme ça. Il y avait des établissements où j'ai été, des ESAT, qui sont spécialement pour les en milieu protégé. Mais mes parents, pour eux, comme j'ai un handicap invisible, pour eux, j'étais normal. Donc,
Oui, ils ne trouvaient pas normal que vous soyiez dans cet établissement. C'était quoi?
Oui, ils disaient, c'est un établissement de fou. Donc, ils m'ont fait travailler normalement dans des cafés.
Et oui, alors que vous étiez fragile. Et c'est quoi cet handicap invisible que vous avez, Jean-Philippe?
Ben, je suis épileptique.
D'accord.
Et comme je me suis fait opérer d'hémorragie ménagée, donc il y a des choses que je comprends, mais je mets un peu plus de temps pour réfléchir, ou c'est pas pareil. Sinon, j'ai travaillé dans un café qui est dans la rue de la Lingerie, si vous, je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans la rue où a été assassiné un président ou quelqu'un à coup de couteau, Ravaillac, je crois que c'est ça.
Ah non, vous parlez d'Henri IV. Vous parlez de Henri IV, le roi Henri IV.
Voilà, qui s'est assassiné dans sa baignoire, c'est ça.
Alors non, il a été assassiné. Vous disiez, alors peut-être, je ne sais pas si c'est dans sa baignoire, c'est Marat plutôt, dans sa baignoire.
Oui, ça va être ça, Marat. Mmh. Et dans ce café, quand j'y ai travaillé, c'était très bien. Il y avait un cuisinier qui était sympa, qui était là depuis des années. On a sympathisé. On allait boire un coup parce qu'on faisait quoi, 11h, 4h de l'après-midi. On reprenait à 6h pour finir à 2-3 heures du matin. Après, on allait boire un verre pour décompresser. On buvait au bain. Mm-hmm. Et un jour, il m'a demandé, je suis pas si flic que ça. Je ne suis pas si cuisinier que ça. J'étais là pour surveiller quelqu'un. Mais maintenant, comme je cohabite avec lui, on l'a fait tomber. Parce qu'il utilisait tout ça. Et j'ai été avec lui juste pour le choper. Et maintenant, que c'était ma planque, qu'on devait l'attraper, on l'a attrapé. Bah, maintenant, je suis sans logement, tu peux m'aider. Vu qu'il y a longtemps qu'il était là, je lui dis, il n'y a pas de problème.
On va essayer de comprendre. C'était un policier qui travaillait sous couverture.
Non, c'était un cuisinier.
Oui, mais vous disiez qu'il était là pour faire tomber quelqu'un, pour pouvoir
oui,
le...
Il donc était c'est sous, en
sous
gros,
couverture, vous disiez qu'il travaillait
cuisine,
sous couverture.
La cuisine, c'était une couverture.
Et il était quoi dans la vie? Alors, c'était quoi son vrai métier dans la vie?
C'était un flic.
Ah, c'était un policier, c'est bien ce que je dis, voilà. C'était un policier qui pour faire tomber
une personne
qui était suspectée de drogue, c'était quoi
de
trafic de drogue, s'est fait passer pour cuisinier, et donc il cohabitait, il partageait avec lui un appartement.
Voilà. Mmh. Et une fois qu'il l'a fait tomber, il était...
Rue,
en gros.
Il repartait là où il était. Il était policier, donc il avait quand même des rémunérations. Ouais. Il vous a dit qu'il n'avait plus de logement.
On a embobiné pour que je l'accepte pour une nuit pour le dépanner. Mmh. Puis cette nuit, ça a duré un peu plus longtemps. Et dans les cafés, en restaurant, on est payé au pourcentage. Donc on est payé le jour même, le lendemain de la journée qu'on a fait. Mmh. Et lui, tout ce qu'il a vu que ça, que je ramenais des sous, et ça a commencé à l'intéresser.
Et comme, mais lui, il avait repris son métier de policier, par ailleurs.
Oui. Dans le temps, il partait et montrait des photos. Il dit, t'inquiète pas, là, il va voir, on a arrêté quelqu'un, tu vas le voir le lendemain dans les journaux.
Et en réalité, il vous mentait, parce que même ça, c'était faux.
Et le lendemain, on l'apprenait. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Et il m'a montré des photos.
En tout cas, il vous a mis en confiance, Jean-Philippe. Il vous a mis en confiance sur ce qu'il était. Il n'y avait pas d'histoire amoureuse entre vous et lui.
Ah non, pas du tout.
Ok.
Et après, ce qui l'intéressait, à un moment, le café où je travaillais, il a été vendu. Et après, il aura fallu que je travaille gratuitement, le temps qu'il y ait les deux patrons. Et il m'a dit, non, t'arrêtes ça. Et puis maintenant, si t'as des PV à payer, tu me donnes tes sous, et moi, je vais payer les PV. Ben, je lui ai fait confiance. Mmh. Et ce qu'il avait, c'est qu'à chaque fois que je ramenais des sous, il les voulait. Je dis, je vais payer mon loyer. Il dit, t'inquiète pas, donne-les-moi, je vais payer le loyer. Comme je passe à côté, toi, tu vas bosser, tu me les donnes, et puis moi, je les donnerai. Ben, qu'est-ce que j'avais
il administrait totalement votre vie. Il vous a mis tout à fait sous coupe et c'est lui qui gérait votre vie.
Voilà, c'est comme je vous disais, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Je lui faisais confiance.
Mais qu'est-ce qu'il faisait de cet argent? Il le détournait ou il payait vraiment le loyer? Est-ce qu'il payait vos contraventions? Est-ce que cet argent, il s'en servait comme il le voulait?
Ça, vous allez savoir plus tard.
Ah, vous faites durer le suspense, d'accord, Jean-Philippe.
Ah bah oui, dure ça tout de suite.
D'accord.
Et quand il partait, il me disait, tu mets ça tu mets tes sous dans l'enveloppe, dans un pot. Sinon, on va te suivre. Et c'est quoi ces bêtises? Puis quand je sortais du café, j'avais deux personnes qui me suivaient. Bon, je faisais un peu comme on voit la télé. Je faisais semblant de monter dans le train, dans le métro. Et dès qu'il montait, quand ça sonnait, je ressortais. Comme ça, j'étais tranquille, je pouvais rentrer tout seul. Et ça a duré pas mal de temps, ça. Et mes parents, ils l'avaient baratiné. Parce qu'au début, ils nous avaient bien baratiné. Ils nous avaient dit, tu sais, on a monsieur le commissaire, il y a avec d'autres, un autre, on a acheté une péniche. Et vu que tu fais la restauration, tout ça, tu pourrais être remplaçant de chef de la péniche. Tout ça pour tenir le restaurant, le bar. Et pourquoi pas? Nourri, logé, tu serais dessus. Pourquoi pas? Mes parents, quand je leur ai dit ça, ils les ont eu au téléphone. Ils les ont crus. Ils ont donné rendez-vous. Manque de peau, il n'était jamais là. Et plusieurs fois comme ça. Après, ils sont étonnés, ils ont voulu le voir, jamais ils l'ont vu. Mes parents, ils ont essayé de me retrouver. Parce que chaque fois qu'ils allaient à mon studio, ils ne trouvaient personne. Et comme je ne trouvais pas de boulot, ils m'avaient donné pour bosser dans un château rouge dans un bar, pour bosser le week-end. Et sinon, à Paris, vous savez, il y a des bureaux de placement. Mmh. Pour garçon de café. Mmh. Et j'allais le matin à 6 à 7 heures avec mes affaires pour savoir si on vous donne une place. Voilà, tiens, il faut que t'ailles au café de Paris, il faut que t'ailles là. Vous y allez. Et je faisais ça tous les jours. Et quand j'avais mon jour de repos, il fallait que j'aille au café de Château Rouge. Tout ça pour récupérer les sous. Il me donnait je posais les sous et c'était bien, mais par moment il y en avait pas. Et il fallait manger. Jean-Philippe, tu sais ce que tu vas faire? Tiens, je te donne 10 francs et tu vas aller acheter quoi, une boîte de pâtes, des conneries.
Et tu vas essayer parce que c'est lui qui gérait tout ce que vous gagnez, c'est lui qui gérait.
Ouais, il piquait tout. Si je ne le faisais pas, il me frappait.
C'était quoi? Il vous frappait?
Oui.
Ah oui, donc il avait. Et alors, il se comportait comme un proxénète?
Si on veut.
Il vous exploitait, il prenait votre argent, il vous obligeait à aller. Il vous disait là ce qu'il fallait faire ou travailler.
Oui. Et quand il n'y avait plus rien à manger, il fallait que j'aille voler pour le.
Voler?
dans le supermarché, tout ça, pour il me donne des juste minimum.
Mais alors, Jean-Philippe, on ne résiste plus. Il était policier ou pas du tout policier, cet homme?
Vous allez le savoir bientôt.
Non, mais là, il faut que vous nous le disiez, parce que là, son comportement est tel qu'on a envie de comprendre.
Bon, je vais aller plus vite, on a dormi dehors, on s'est lavé dans les toilettes, dans les pissotières à Paris.
Pourquoi ? Parce que vous l'avez perdu, vous n'aviez plus de studio, vous n'aviez plus rien.
Non, on s'est caché parce que mes parents voulaient nous retrouver.
Et lui, il a réussi à vous convaincre.
Là, une fois, il y a le gardien qui nous a vus venir. Donc il a téléphoné tout de suite à mes parents. Mes parents sont venus, ils ont frappé à la porte. Lui, il a pas fait attention, il a dit « Bonjour, on est des copains de Jean-Philippe ». Il a ouvert. Mes parents. Et hop, il est parti en courant. Puis ils ont récupéré l'appartenance. Il foutait ses globes partout, j'en ai rien à foutre. Et dans l'appartement, on a trouvé 5 identités différentes.
Ah oui.
Avec des papiers différents. On a retrouvé des photos de commissaires.
Ah oui, d'accord, c'est un véritable escroc.
Voilà, c'est un véritable escroc. Et après, j'étais au commissariat des... c'est pas un commissariat, c'est la... Oui, c'est des personnes vulnérables. Mmh. Et ils ont essayé de le trouver. Ils m'ont fait un tapissage. Tu sais, c'est quand il y a plusieurs photos. Mmh. Et je l'ai reconnu. Parce qu'il avait déjà fait de la prison, mais ils m'ont dit ça m'étonne pas, il fait que ça. Il ressort, il fait ça. Il ressort, il fait ça.
Bah oui, donc c'était pas vous n'étiez pas sa première victime. Combien de temps ça a duré tout ça, Jean-Philippe ?
Pour moi, plus d'un an.
Vous n'étiez pas, Bernadette, elle demande, vous n'étiez pas sous curatelle de vos parents ?
Non. Et par contre, quand ils m'ont récupéré, ils m'ont ramené chez moi, région parisienne. Mmh. Et après, j'ai été ils m'ont mis sous curatelle, renforcée.
Eh oui.
Et après, j'ai habité dans un foyer de travailleurs.
Handicapés.
Mmh. Personne pour les traumatiser. Mmh. Et j'étais dessus, j'habitais là. Au début, je travaillais pas. Puis après, je prenais ma voiture, j'allais travailler. Et quand je revenais. Puis là, maintenant, je suis dans un ESAT.
Ah voilà, c'est le fameux établissement où vos parents ne voulaient pas vous mettre à l'époque. Vous avez quel âge, Jean-Philippe ?
Moi, j'ai 60 ans.
60 ans. Donc aujourd'hui, vous travaillez dans le cadre de cette...
Dans un ESAT.
Dans cet établissement. Cuisine. D'accord, en cuisine. Bah oui, vous connaissiez bien.
En milieu protégé. Ça change.
Ça change, Jean-Philippe, bien sûr.
Et je suis avec un SAVS. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Un SAVS, c'est un service d'aide à la vie sociale.
Ah, d'accord.
C'est des gens qui s'occupent de tout ce que vous avez besoin de quelque chose, hop, ils sont là. Vous avez besoin de papier, hop, ils sont là. S'il y a un problème, hop, ils sont là.
Et c'est propre aux ESAT, c'est dans cet établissement que vous avez pu côtoyer, bénéficier de...
C'est eux que j'ai trouvé, eux. D'après eux, ils travaillent en même temps, de toute façon. Parce qu'un ESAT, il faut savoir que ça appartient à la CAF.
Oui, bien sûr.
Et l'établissement, il est à part. Mais ils sont de mèche. Ils se connaissent très bien. D'ailleurs, la plupart des travailleurs viennent du foyer pour le... accidenté, comment dire, traumatisé crânien. Voilà ce que je cherchais. Et voilà.
Oui, c'est ça. Vous êtes dans cet établissement d'accompagnement par le travail et vous avez donc une activité professionnelle et vous avez un accompagnement qui est un peu médico-social, on va dire, pour votre autonomie, votre insertion, pour votre santé.
Oui, et maintenant, j'ai un appartement. Donc, on a fait des essais. Il y a des appartements d'essai pour voir si on peut se débrouiller tout seul.
Oui.
Et après, là, maintenant, je suis dans un appartement à moi tout seul. Et maintenant,
Et vous êtes toujours sous protection, enfin sous
curatelle renforcée
avec vos parents.
Je suis passé à curatelle simplifiée. Même la dernière fois qu'on a vu le juge, il nous a mis en curatelle simplifiée.
D'accord. Et vos parents sont toujours là de ce monde, oui ?
Oui. Là, ils étaient à 1 km. Maintenant, ils sont partis à Toulon. Mmh. Ça fait un peu loin. Et c'est pour ça que, comme j'ai personne autour de moi, avec cette ESAT, c'est pratique.
Bah heureusement.
Chaque fois qu'il y a, il y a des problèmes de papier.
Bien sûr. Et Jean-Philippe, le message que vous vouliez livrer ce soir à dans cette libre antenne, c'était justement cette emprise que l'on peut parfois s'oublier quand on est vulnérable.
Syndrome de
Stockholm.
Oui,
c'est ça.
C'est-à-dire que la personne, elle nous fait ça. C'est sûr, on pourrait partir.
Mais vous restez. Vous restez et vous êtes sous son emprise. Oui, absolument. Voilà. Merci pour votre témoignage, Jean-Philippe. Merci d'avoir participé.
Voilà. Je voulais dire aussi.
Oui.
Je voulais dire aussi, quand j'écoute les gens, ils ont beaucoup de problèmes de mémoire, tout ça. Il faut dire que la mémoire, c'est comme une commode. Et de temps en temps, il faut vider les tiroirs.
C'est comme notre téléphone. Il y a une capacité de stockage.
C'est un psychiatre qui disait ça à une amie. Et comme ça, vous repartez avec une nouvelle personne, parce que sinon, vous avancez jamais.
Bah oui. Bah écoutez, là, ce soir, vous avez livré tout ce que vous nous aviez à dire. Allez, on a remis à neuf votre mémoire. Vous allez pouvoir continuer à avancer, Jean-Philippe. Merci. Merci infiniment pour votre témoignage, Jean-Philippe. Passez une très bonne soirée.
Merci, au revoir.
Mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. À savoir d'où me viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi. Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là. Je suis mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi?
Ah, les légendes de la chanson française, Claude François, inoubliable, mal aimé sur Europe 1. La famille, c'est parfois un refuge, parfois un champ de bataille, parfois les deux à la fois. Ce soir, on va parler des parents, d'enfants, de fratrie, de liens qu'on voudrait réparer, des mots qu'on n'a jamais dit. On va aussi parler d'amour filial, d'amour conjugal, d'amour tout court et pourquoi pas de divorce. Si quelque chose vous pèse, si quelque chose vous manque, si quelque chose vous fait espérer, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Ce sont des appels non surtaxés. Florian et Julia sont là pour vous écouter. Les messages également sont possibles au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Bonsoir Astrid.
Bonsoir.
Mais alors Astrid, c'est une très bonne nouvelle que vous allez nous annoncer là. On va réexpliquer un peu la situation. Vous nous aviez appelé, vous m'aviez appelé d'ailleurs, c'est moi qui avais pris cet appel. Je devais remplacer l'année dernière probablement Olivier Delacroix. Et puis je vous avais eu en ligne et vous parliez de la difficulté, de votre difficulté de divorcer, de cette difficulté de revoir cet homme qui vous avait fait autant de mal, que vous étiez un peu dans ce déni de la situation. Et puis un beau jour, vous allez recevoir un papier disant que vous êtes divorcé. Racontez-nous.
Alors, là, vous allez très très vite dans l'histoire.
Ben oui, justement. On va rembobiner à la fois la discussion que nous avions eue ensemble et puis votre situation aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, quand je vous ai appelé, je vous avais raconté que ça faisait 12 ans que j'avais demandé un divorce qui m'avait été refusé et que j'avais découvert qu'au bout de 3 ans, quand il n'y a pas d'action, eh bien... Le divorce est obsolète.
Oui. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut reprendre toute la procédure puisqu'on a un délai, on a une ordonnance qui est rendue de non-conciliation et ensuite on a une autorisation pour assigner. Et si dans le délai, on ne saisit pas le tribunal, eh bien tout ce qui a été fait avant est annulé.
Voilà. Alors que moi, je pensais que, étant donné que nous n'habitions plus ensemble, ça allait se faire naturellement. Bon, les années ont passé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai demandé si ça ne gênait pas, que je ne sois pas divorcée, pas du tout, puisque sur mon conseil, lui avait divorcé en un an. Donc là, c'était vraiment la honte pour moi. Et puis, donc, en 24, puisque là, on est en 24, l'été 24, je reçois via Messenger, puisque j'avais bloqué mon téléphone, donc il a réussi à me recontacter via Messenger. Mon toujours mari me contacte en disant qu'il est d'accord pour divorcer, qu'on se recontacte et tout. Mais moi, vu son comportement très agressif, alors, je ne peux pas dire qu'il m'ait vraiment tapé, il était des gestes très violents, en rigolant, en me disant « t'as peur ». Plus des rabaissements, enfin le vrai pervers, manipulateur, qui vous rabaisse.
Combien d'années vous étiez restée avec lui, Astrid ?
Alors, on a été 3 ans ensemble, on s'est séparés, parce que déjà je chantais mais je l'aimais encore. Et quand il est revenu, je venais d'avoir un accident de moto, donc j'étais un petit peu... pas bien, il a su me reparler. Et lui, entre-temps, il a eu un infarctus et il voulait à tout prix m'épouser. Je me suis laissée faire, bien que je n'ai jamais été pour le mariage. Donc, en tout 5 ans, on va dire, si on cumule les deux. Quoi.
Vous avez été 5 ans ensemble et vous avez mis plus de quoi ? De 10 ans pour divorcer ?
Alors, 3 ans, une première fois. C'est pareil. 3 ans. Et là, après, on a repris, il m'a dit j'ai changé, tu es la femme de ma vie, enfin bref. Et au bout de 3 ans, oui, puisque c'était en 2010, on s'est mariés en 2010. Au bout de 3 ans, j'ai découvert, grâce à une amie, des choses pas très sympathiques. Mais je commençais à être dans des amours, mais comme j'ai reçu une certaine éducation, qu'il avait eu un autre infarctus, qu'il avait été dénoncé certainement par une de ses conquêtes aux impôts et qu'il était très très mal, je me disais, on ne tire pas sur une ambulance, donc voilà, je ne voulais pas le lâcher à ce moment-là. Mais quand mon amie m'a ouvert les yeux, là, le 2 janvier, elle m'a annoncé ça pour la bonne année. Le 2 janvier 2013, je suis allée voir un avocat en disant, voilà, j'attendais un troisième infarctus ou un accident de moto, ça ne vient pas.
vous lui avez présenté les choses comme ça, d'accord.
Oui, mais quand, il m'a dit, quand même, il était choqué, mais quand il l'a vu au tribunal, quand on l'a convoqué pour le divorce, Il m'a dit, vous restez à côté de moi parce que je ne suis pas venue pour un homicide. Il me dit, mais c'est un violent. Et il avait peur de lui. Donc, voilà.
Ah oui. Sa violence, il l'a manifestée comment? Avec des mots, avec des menaces, ou c'était des menaces physiques?
C'était des gestes. Il était assez baraqué et tout. Donc, des gestes comme si. Et rigoler, parce que, bien sûr, moi, je me protégeais. Alors, il a quand même essayé une ou deux fois. Et la fois où j'ai eu très peur, c'est qu'il était de me. En pleine route, c'était une petite route, et si vous voulez, il allait en face. Comme s'il voulait avoir une collision.
Mais pourquoi vous étiez avec lui en voiture?
Oui, oui.
Ah!
Et
alors, ce que